Eh bien, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous proposer aujourd'hui ce podcast spécial Square Enix, où nous avons comme invité Raphaël Labouret, chef de produit dans cette grande maison.
Eh
Comment
bien, très
vas-tu,
bien,
Raphaël?
bonjour à tous et ravi d'être là avec vous.
Raphaël, merci d'avoir accepté notre invitation et nous profitons de cette occasion pour essayer de faire un petit point avec toi sur leur Square Enix en ce moment. Et en ce moment, c'est Final Fantasy qui est un petit peu au devant de la scène. Tu peux
Oui,
nous
en
en parler?
effet, ben, on a une grosse actualité principalement avec la série Final Fantasy sur les mois à venir. Donc on a Final Fantasy Type Zero, qui est une version PS4 d'un jeu PSP qui s'appelait Final Fantasy Type Zero, hein, qui est sorti qu'au Japon il y a de ça quelques années, et qui a donc été remasterisé pour PS4 parce qu'il était excessivement demandé par le public occidental. En parallèle avec ce jeu, il y a la démo de Final Fantasy XV qui sort dans le packaging avec Type Zero, et ça arrive tout en même temps. Et puis bien entendu, sur le dernier volet, il y a toujours Final Fantasy XIV, donc notre MMORPG dans l'univers de Final Fantasy, qui va accueillir une extension qui s'appelle Heavensward et qui sortira le 23 juin.
Mais disons, ça en fait de l'actu. Alors, je voudrais justement, tiens, revenir sur Type Zero qui va arriver sur PS4.
Xbox One.
Je me disais
Et
aussi
Xbox One,
qu'elle
oui,
était un
pardon,
peu oubliée cette
j'avais
console.
oublié. Ouais, ça va, ça va. Qui arrive donc sur console nouvelle génération, avec cette fameuse démo. Alors, je sais que Square Enix est habitué du fait, c'est-à-dire fournir une démo avec un autre jeu ou un autre film, comme ça avait été le cas pour Final Fantasy XIII et le film Crisis Core au Japon. Est-ce que c'est pas un peu
Advent Children.
frustrant, tu penses, pour les lecteurs? Ouais, Advent Children,
Ouais.
pardon, excuse-moi. Ça va, ça va. Donc justement, et ben je l'ai le disque, d'accord. Mais je lis pas le japonais, alors c'est pour ça que j'ai pas reconnu le nom. Mais disons que je lis pas le japonais, mais je fais pas de test, moi. Hein.
Oh là
Ça
là.
y est, ça c'est dit. Non. Plus sérieusement, Raphaël, est-ce que tu penses pas que, Raphaël, est-ce que tu penses pas que le fait de fournir une démo exclusivement avec un jeu est un peu frustrant?
Bon, ça peut l'être, tout dépend un petit peu du point de vue. Le lien qui arrive là-dessus, c'est surtout quand en fait on a le même directeur de jeu, qui est Tabata-san, Najibe Tabata, qui gère et a donc a bientôt fini de gérer le remaster de Final Fantasy Type Zero, et aussi à la tête de Final Fantasy XV. On a des gameplays un peu action, on se retrouve dans des scénarios et des choses un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de trouver dans Final Fantasy jusqu'à présent. Et donc ça semblait et ça avait du sens de relier un petit peu ces deux produits. Plus loin encore, le vrai but de cette démo, en plus de bien entendu partager un peu et de donner un aperçu, un avant-goût de ce que Final Fantasy XV pourrait donner et pourra certainement donner à sa sortie dans quelques temps, c'est aussi offrir la possibilité de toucher à ça, mais aussi récupérer et récolter. Il y a un vrai souhait d'obtenir un maximum d'avis et de retours, de remarques de la part des joueurs et des fans sur le produit, sur la tournure qu'a pris le gameplay, sur le fait que ce soit un monde ouvert, et un petit peu toutes les nouvelles mécaniques, les graphismes, le réalisme, et vraiment voir si ça convient vraiment à l'envie du plus grand nombre, et pour pouvoir justement aider à finaliser FF15 et en faire un grand produit qui plaira au plus grand nombre.
D'accord. Au plus grand nombre, mais limité à ceux qui achèteront la démo. Est-ce que tu penses que la démo sera ultérieurement lâchée en public? Je sais pas.
Y a rien d'officiel là-dessus. Ça serait difficile de s'avancer, mais ça reste une possibilité. On va dire que ça reste une possibilité, mais il n'y a vraiment rien d'officiel, et dans un premier temps, dans tous les cas, ça sera réservé donc aux heureux possesseurs de Final Fantasy Type-Zero.
Manu Nobunagashi, pardon, tu étais hier soir à la présentation de, enfin, une présentation de FF15. Tu es parti avec un air sceptique, puisque tu n'avais pas encore vraiment eu l'occasion de t'y confronter. Qu'est-ce qui nous a ramené comme impression?
Effectivement, en fait, je suis arrivé avec des a priori qui étaient assez énormes parce que des vidéos qui avaient percé jusque-là, l'espèce de boys band emo en Cadillac qui s'éclate à Jurassic Park, c'était carrément pas mon kiff. Et du coup, j'étais super sceptique quand je suis arrivé et quand la démo a commencé. Et en fait, j'ai été déjà super surpris parce que il en met plein la gueule, déjà. Techniquement, enfin, t'arrives, c'est tout ce qu'il y a, je crois que ça s'appelle. C'est un paysage à perte de vue et t'en prends littéralement plein la gueule tellement c'est beau. Donc après, techniquement, il y a encore quelques soucis, hein. Il y a un peu d'aliasing à droite à gauche. La bagnole, la Cadillac, elle est un peu dégueulasse. Il y a des lags encore assez récurrents, mais enfin, il y a encore un an de développement, si ce n'est plus. Le moteur va être changé d'ici là. Là, ils disaient justement qu'ils étaient sur une version 1.5 du moteur. Le jeu sera en version 2.0. Donc il y a encore énormément de chemin à parcourir d'ici la sortie du jeu. Ça se voit. Mais il y a déjà des bases qui sont énormes et qui sont fabuleuses. Les déplacements des personnages sont super bien foutus. Quand ils courent, on voit les cheveux qui sautillent à chaque pas, les vêtements qui volent au vent, les buissons qui bougent aussi avec le vent. Du coup, c'est super sympa, super impressionnant. Et moi, je dois avouer que Final Fantasy, en fait, j'ai perdu de vue la licence depuis quelques années déjà, parce que
Depuis
il
le
me
9, en gros.
manquait depuis le 9, ouais, exactement, parce que je trouvais que la licence se renouvelait pas assez, en tout cas dans son gameplay, dans sa façon de faire, et que les univers ne m'attiraient pas du tout, pour faire simple. Et là, en fait, j'ai redécouvert une nouvelle série, et je pense que c'est aussi l'intention de Square Enix de chercher à relancer la série sur de nouvelles bases avec la nouvelle génération. Et notamment au niveau des systèmes de combat, donc on l'a vu, on l'a dit auparavant, on est dans un monde ouvert avec des combats dynamiques. Ils ont totalement laissé tomber le tour par tour. Et enfin, limite, tu pourrais avoir l'impression d'avoir du Devil May Cry devant toi, avec un truc ultra dynamique, hyper péchu. C'est sympa à regarder. Et à côté de ça, ils n'ont pas non plus totalement délaissé la partie tactique qu'il y avait avec le tour par tour. Parce que t'as une espèce de pause active. Si t'en as envie, tu peux mettre le combat en pause et tu pars sur la gestion de ton inventaire, notamment des potions, puisque t'as quand même trois mecs à gérer, enfin pas à gérer parce qu'ils se débrouillent tout seuls en fait, mais à tenir en vie pendant les combats en leur filant des potions. Tu peux gérer aussi des armes que t'assignes à chaque attaque. Du coup, c'est super impressionnant. Moi, de l'avis que j'ai eu, alors que j'étais super sceptique au départ, c'est que là, j'ai qu'une envie, c'est de l'essayer et de partir dessus à fond, quoi.
Raphaël, donc du coup, tu l'as drogué hier soir ou
Non,
la soirée?
pas du tout. Il n'y avait pas besoin, tu vois, il s'est drogué tout seul. Mais
Ouais.
non, c'était une présentation où on a représenté la gamme de trailers qui ont déjà été diffusés, mais sur grand écran, vu que c'était dans un petit cinéma. Donc forcément, on n'a pas les mêmes impressions que quand on voit ça sur un écran de PC chez nous, quand on les regarde ou sur le mobile. Et en plus, il y a eu un bout de la démo qui a été fait en live par mon assistant Idir, qui a joué en live à la démo et qui a montré, sans trop spoiler, quelques passages de la démo un petit peu à tout le monde sur très grand écran. Et voilà, il semblerait que Nobu, il a été complètement conquis, mais dans l'ensemble, ça a eu un bon effet, c'était très agréable à voir, vraiment sympatoche.
De toute façon, il y a certains de nos confrères qui ont eu la chance d'y jouer, et pour en avoir discuté un peu avec eux, apparemment c'est très très prometteur, notamment au niveau du système de combat, ça a l'air super riche. Et donc ouais, on a tous envie d'y jouer maintenant, c'est ce qui ressort de ces différentes previews, donc vivement le 20 mars en fait.
Kabuto, toi qui a quand même eu la chance, entre parenthèses, ou la malchance, de toucher tous les finales, plus ou
Bah,
moins.
moi, ce que j'ai à dire par
T'es en
rapport à Final
attente?
Fantasy XV, c'est qu'aujourd'hui, ce qui manque dans les jeux, c'est le côté interaction avec les décors, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un jeu, il est beau, on va d'un point A à un point B sans forcément s'attarder sur un bout de décor. Et là, avec FF15, bah, on est dans un monde super ouvert, avec, bah, comme l'a dit tout à l'heure Nobunagashi, des buissons qui bougent au gré du vent, des animaux qui se baladent juste à côté de toi. En plus, tu peux les attaquer, je suppose. De
Ouais,
loup.
t'as des espèces de... Je sais même pas comment définir ça, mais des espèces de petits mammouths courts sur pattes qui se baladent et puis bah tu les attaques pour récupérer ta viande. En plus, ils ont intégré plein de nouveaux mécanismes, notamment la possibilité de faire de la cuisine pour avoir un espèce de bœuf bien nourri en fait quand tu fais ton feu de camp. Tu fais ton feu de camp, tu manges, tu fais ta bouffe. Pareil, quand tu vas dans une auberge, tu peux acheter des trucs et après bah tes personnages ils ont le moral quoi, donc ils se battent mieux.
Voilà, c'est surtout ça qui manque aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo, c'est le côté interaction avec les décors. Par exemple, je prends Shenmue, qui est sorti sur Dreamcast, c'est encore un jeu bon, qui commençait un peu à vieillir, mais il a mis une certaine base par rapport à tout. Et quand on joue encore à Shenmue, on est pris partout parce qu'il y a ce côté interactif avec les décors, avec les personnages, avec l'ambiance. Enfin, c'est un tout en fait. Et ça s'est perdu avec le temps. Mais là, on retrouve cette ambiance un peu vivante, j'ai envie de dire, avec Final Fantasy XV. Enfin, c'est les impressions que j'ai ressenties en voyant les vidéos et les impressions que j'ai eues en retour, quoi. Après, si ça bouscule un peu la série Final Fantasy, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Il faut avancer avec les générations actuelles, il faut s'adapter. Et le 15 a l'air tout simplement et tout bonnement fantastique. Vivement, vivement.
Bon, ben Raphaël, écoute, c'est sympa de venir parce qu'apparemment tout le monde a l'air super en attente et super content
Ah bah c'est
de voir
toujours
tout ça.
plus agréable comme ça.
Attends,
Ouais. Ça change du lancement de
on va
Final
parler de Life
Fantasy
is Strange
XIV, premier
après,
du nom.
ça va moins bien se passer.
Hein. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, on reste sur Final Fantasy. Ouais, je te disais, ça change du premier lancement de Final Fantasy XIV qui avait dû être rebooté
Bah,
complètement.
ça, après le produit
Et d'ailleurs.
n'a pas été un succès sur sa première sortie et on a pris les décisions pour en faire un succès. Mais oui, en effet, c'est plus agréable que ce genre de moment.
C'est clair. Et justement, Final Fantasy XIV, puisque c'est un produit que tu gères de plus près, depuis longtemps maintenant, tu en penses quoi, l'évolution là pour l'instant? Tu es content au niveau de la fanbase, de tous les gens qui jouent, de l'arrivée de ce nouveau DLC qui
C'est
sera
bien
le
ça.
23 juin, je crois?
Ben, je pense que le jeu atteint une phase de maturité. Il a déjà reçu beaucoup de contenu. Yoshida-san et son équipe de développement ont une cadence infernale de développement de contenu. Il y a un gros patch, un patch majeur tous les 3 mois et les mois suivants entre, il y a des ajouts un peu plus mineurs, mais il y a encore des ajouts. Dernièrement, avec le dernier patch, on a récupéré le Gold Saucer qui vient de Final Fantasy VII avec la course du Chocobo, par exemple, et les mini-jeux. Et on a aussi récupéré le Triple Triad qui vient de FF8, qui sont quand même des fonctionnalités assez mythiques de la série. Grâce à ça, bah, on a quand même le jeu évolue très rapidement et évolue bien. Et là, on a atteint une période où le jeu commence à être très complet. Et suite à ça, ben, en plus, dans 3 mois maintenant, un petit peu plus, on va avoir la nouvelle extension Heavensward qui va rajouter un contenu qui va quasiment doubler le contenu de ce qu'on a à l'heure actuelle, donc qui va rapporter encore énormément de choses à découvrir et à jouer pour tous les fans et tous les gens qui sont abonnés et qui se plaisent sur ce jeu. L'évolution au niveau des abonnés est plutôt bonne, vu que bah, bien entendu, du fait que le jeu se bonifie, s'embellit, gagne en contenu, les gens sont ravis de rester et de découvrir les nouveautés, de suivre un petit peu près toute l'histoire qui se passe dedans. Parce qu'une des particularités qui est pas toujours relevée sur FF14, c'est qu'il y a un vrai scénario à suivre, ce qu'on appelle l'épopée. C'est une série de quêtes et on retrouve une histoire qui est une histoire digne d'un Final Fantasy en solo. C'est une succession de quêtes avec une histoire qui est assez poussée et c'est des choses qu'on trouve rarement dans les MMO. Et c'est quelque chose que j'aime souligner parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent, qui font du, c'est pas exactement du solo, mais qui vivent cette aventure et qui retrouvent du Final Fantasy plus traditionnel aussi sur celui-ci qui est en ligne avec beaucoup de monde.
D'ailleurs, tu pourrais nous dire le nombre d'abonnés que vous avez ou c'est confidentiel ?
C'est confidentiel.
D'accord.
Mais c'est pas
non,
propre.
Non, tout à fait.
Après, je sais pas, ça a toujours été comme ça, donc c'est un peu compliqué. Je pense que le premier qui va annoncer exactement, ça risque d'être perçu bizarrement parce qu'on peut pas vraiment le calibrer. Et c'est juste pour, je pense que c'est pour ça qu'on le personne le fait, parce que le premier qui le fera, les gens diront ah mais finalement ah c'est pas beaucoup, ah c'est fait beaucoup, ah machin, parce que on n'a pas d'échelle quand on n'est pas dans le milieu, on n'a pas vraiment d'échelle de comparaison et on peut pas se dire finalement ils en ont beaucoup plus qu'un tel ou pas, et les gens pourraient dire que c'est pas un succès alors qu'en fait c'en est un. Mais bon, je pense que c'est ça qui fait qu'à l'heure actuelle on garde ce genre de données assez confidentielles.
De toute façon si c'était pas un succès on le saurait, parce que le jeu deviendrait free to play et puis il y aurait plus d'actualité, il y aurait plus de mise à jour, il y aurait plus d'extension. Mais ce genre de projet un peu géant, on sait très vite si ce sont pas des succès, quoi. À partir du moment où il y a un suivi post-lancement, ça veut dire quand même qu'il y a du joueur derrière qui alimente la machine, quoi.
Le fait même qu'il reste payant, c'est clairement un succès. La question est d'ailleurs, ça coûte combien de jouer à Final Fantasy XIV?
C'est comme sur tous les modèles à abonnement, c'est dégressif, mais le prix d'entrée en paiement mensuel est à 10,99€. Voilà, et puis bien,
oui, ça reste
dégressif après, mais de par rapport à l'abonnement, ça permet de jouer sur toutes les plateformes. Si on a une version PS4 par exemple, une version PC, il n'y a qu'un abonnement, et on peut jouer sur les deux plateformes en fonction de ses envies. Et puis on joue autant qu'on veut. Il n'y a pas du tout de limitation, ni d'accès au contenu, ni de quantité de temps passé sur le jeu.
Bon, ça c'était Final Fantasy XIV. Bon, le Type Zero, on a entendu que Manu n'aimait pas, mais ça, bon, le Type Zero, c'est une reprise. Il n'y a pas eu de refonte totale pour l'emmener sur les consoles nouvelle génération. Est-ce que vous en attendez beaucoup? Parce que c'était très demandé, vous en attendez beaucoup? Ou vous pensez que ça sera quand même encore un jeu de niche?
C'est un Final Fantasy qui est différent des autres, parce que c'est un vrai action RPG, c'est un gameplay beaucoup plus action, c'est pas du tour par tour non plus. C'est un monde qui est beaucoup plus mature, c'est un vrai drame, il y a un contexte de guerre ouverte qui fait justement qu'on se retrouve. C'est un contexte qui est vraiment très particulier, c'est un jeu qui est un petit peu différent des Final Fantasy, et c'est aussi pour ça que les joueurs occidentaux l'ont beaucoup demandé suite à sa sortie et son succès en PSP, sur format PSP chez les Japonais, justement parce que c'était quelque chose de différent, tout en gardant l'esprit de Final Fantasy, c'était un peu une nouveauté.
Mais le jeu, il était sorti sur PSP, justement. Il y avait, on va dire, encore ces problèmes de caméra à l'époque, mais qui ne gênaient pas sur un petit écran. Mais vous n'avez pas peur d'avoir des mauvais retours par rapport à ça sur un grand écran?
Alors, non. Après, c'est un peu inhérent au jeu d'action. Forcément, les choses bougent vite à l'écran. Ça avait été perçu principalement au TGS où il y avait une forme de levée de bouclier. C'est vrai que les caméras étaient loin d'être optimales. Il y a eu énormément d'améliorations. Tabata-san a bien relevé toutes les remarques qui ont été faites par la presse principalement à ce moment-là, et ensuite par les joueurs sur d'autres salons. Et il y a, en ce qui me concerne, j'ai noté une claire amélioration. C'est sûr que dans tous les cas, ça bougera toujours plus vite qu'un Final Fantasy en tour par tour, mais c'est devenu beaucoup plus confortable et beaucoup plus agréable à utiliser. Surtout une fois qu'on a un petit peu, au début c'est un petit peu brouillon, mais c'est inhérent un petit peu au format. L'action, ça bouge beaucoup, il se passe plein de choses à l'écran et on a tendance à vouloir regarder partout, mais une fois que les quelques premières minutes passées, qu'on a compris le système de targeting et un peu comment le gameplay se déroulait et comment passer d'un monstre à l'autre et gérer les attaques, gérer ses coéquipiers. Après, ça se passe quand même relativement bien et je dirais que le problème est réglé comparé à ce qu'on a connu auparavant.
Et ben voilà, Tu as ta réponse, Kabuto?
Ben oui. C'était un peu la crainte des joueurs en même temps. Donc, et puis justement, comme le disait Raphaël, au TGS, j'avais vu ce petit problème également. Et sur PSP, moi, ça ne m'avait pas posé de problème. Donc, si Tabata a pris en compte les retours des joueurs, bah, c'est que du plus, c'est que du bien. C'est le bonheur, bonheur.
Alors, Raphaël, je vais venir vers toi maintenant avec des questions qui ont été posées sur notre Facebook, puisque tout à l'heure, on a demandé à nos likers s'ils avaient des questions à poser à Square au sujet justement de Final Fantasy, entre autres. Et il y en a une qui arrive, et bien sûr, je sais que tu vas pouvoir y répondre, enfin j'espère, qui revient, c'est est-ce qu'au final, les voix Jap seront dispo sur la version Euro
oui,
de FF15?
Ça a été confirmé, et de même pour Type 0. C'est une demande de longue date d'avoir les dialogues en japonais, ou tout du moins avoir le choix, parce que une partie du public n'apprécie pas forcément d'avoir les doublages en anglais et préférerait les avoir en japonais, et ça sera le cas donc sur ces deux titres. Donc en effet, les gens auront toute liberté de choisir entre le doublage anglophone, donc plutôt de type américain, ou le doublage japonais avec bien entendu les sous-titres et les menus en français.
Bon, deuxième question, mais c'est une question rhétorique et celle-là tu ne pourras sans doute pas y répondre. À quand un portage HD de Final Fantasy?
Ah, la célèbre. La célèbre, ben, ça.
Parce que Enix sera dans rouge.
Je pense même pas que ce soit rapport à ça. Je pense que ce sera plutôt un terme de temps. Mais moi, j'ai toujours à peu près la même réponse, qui est plutôt ma réponse de vision de gamer. C'est que ça reste quand même un titre mythique et que les attentes sont tellement fortes que c'est vraiment un challenge. C'est un challenge incroyable dans le sens où c'est un mythe qui est un mythe parce qu'il est ce qu'il était. Le remettre au goût du jour et le réaméliorer, et tout en gardant son esprit, alors que les goûts ont changé quand même depuis le temps. Depuis 97, les choses ont changé. Même maintenant, rejouer à ce jeu, s'il ressortait tout juste, tout neuf à l'heure actuelle, tel qu'il est juste avec des graphismes actuels, on n'est pas sûr qu'il aurait eu le même succès. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment trop acrobatique pour être si simple à effectuer.
Il y a plus de chances de se péter la gueule.
En tout cas,
chose,
c'est,
en fait.
C'est une.
Pas forcément, oui, mais disons que les risques sont assez présents, sachant que ça engagera, de par la grandeur de ce titre, un coût de développement assez faramineux.
Et en même temps, pour quelque chose où peut-être les commentaires seraient les mêmes que pour certains autres portages, il y en a marre, encore des portages, faites d'où ni neuf.
C'est un paradoxe
un peu. C'est amusant. Tout le monde te demande un portage et quand tu as fait les portages.
Ah, mais le problème, c'est que les portages actuels, ce sont des jeux qui sont sortis il y a moins de 3 ans. Là, on parle quand même d'un jeu qui a quasiment 20 ans. Donc, c'est un peu différent, quoi.
T'as peut-être pour les 20 ans, ils nous feront une surprise.
Peut-être.
En tout cas, écoute, on a fait cette première partie en couvrant un petit peu tous les Final Fantasy qui sont prévus. Et dans la deuxième partie de ce podcast, je voulais voir avec toi, Raphaël, parce que je sais que tu es un fan de Dragon Quest. Et donc, il est maintenant sorti au Japon depuis quelques temps. Il arrive
alors,
en France.
J'imagine que tu parles de Dragon Quest Heroes. Donc, il est sorti le 26 février au Japon.
Oui.
Donc, ça fait 2 semaines maintenant. Nous, on l'a confirmé, annoncé pour 2015. On n'a pas de date confirmée parce que il est passé encore de trad et il y a toute la localisation qui passe derrière. Le jeu est fini en soi, hein, vu qu'il est sorti. Mais il y a toute la période de traduction. Et ça peut être des fois un peu variable. Tu peux avoir des soucis. Donc, on l'annoncera, on le confirmera avec une date un petit peu plus tardivement quand on aura bien avancé sur tout ce qui est localisation.
D'ailleurs, au passage, puisqu'on parle localisation avant de parler du jeu lui-même, je pense que les gens, enfin globalement les joueurs, imaginent que c'est relativement simple pour une grosse boîte comme vous de faire traduire un jeu. Localisé, puisqu'on dit localisé, on ne dit pas traduire. Est-ce que tu as une idée du processus, de tout ce que ça demande pour pouvoir porter un jeu comme ça vers une langue complètement différente?
En termes de temps, c'est toujours compliqué parce que ça dépend du nombre de personnes que tu mets sur le projet, c'est forcément variable, mais souvent moi je vais prendre de par ce que j'ai fait de par le passé, on met à peu près 3 à 5 traducteurs via soit une agence, soit en direct. Puis après, ça dépend du contenu à traduire. Forcément, sur un RPG, ça prend toujours beaucoup plus longtemps qu'un jeu plus action où il y a beaucoup moins de texte. Et puis, ça se rallonge encore un peu quand ce sont des grosses licences et des licences à histoire, comme Final Fantasy, comme Dragon Quest, qui ont une longue histoire en termes de terminologie, parce que ben on retrouve toujours à peu près, enfin on a un bestiaire qui reste là, un univers qui reste là, il y a des noms qui sont récurrents, et donc il y a un glossaire où il faut s'assurer que tous les termes ont toujours la même traduction, parce que ben les fans qui ont joué au précédent Dragon Quest ont envie de retrouver les mêmes traductions auxquels ils sont habitués et qui font partie du charme du jeu. Après, c'est un petit peu dur de s'avancer parce que, et même si j'ai joué à Dragon Quest Heroes en version import, j'ai pas fini le jeu, j'ai un petit peu du mal à estimer le contenu, mais c'est certainement dans les délais dont on a l'habitude sur les jeux, à peu près, on va dire, 6 mois. De toute façon, il est annoncé pour 2015, il sortira sur 2015, même si au plus tard, ça sort en décembre, ça veut dire 9 mois maximum.
Alors, Kabuto, je sais que, comme Raphaël, tu as déjà le titre en main, puisque tu l'as racheté directement là-bas à Tokyo. Tu as commencé à y jouer, tu l'avais essayé, si ma mémoire est bonne, à la Jump Festa, qui est un événement... qui est un événement japonais sur le jeu vidéo où il y a pas mal de choses. D'ailleurs, tu l'avais très bien couvert. Alors, vas-y, donne-nous un peu ton impression sur ce Dragon Quest Heroes.
Vu que je m'étais rendu à la Jump Festa, bon, je l'avoue, j'ai eu peur, voire super peur, parce que en fait, j'avais en face de moi un jeu plutôt beau qui donnait envie, mais une fois manette en main, c'était limite catastrophique. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le jeu était mou, avec une intelligence artificielle complètement à la ramasse, avec des problèmes de collision. Et tu vois, je me disais, bon... pour une démo, pour présenter un jeu, je trouvais ça limite moyen, quoi. Et à quelques mois de la sortie, je me suis dit, allez, faut que je me lance, que je mette mes craintes de côté, que j'insère la galette, je l'achète, allez, c'est parti. Et au final, Dragon Quest Heroes, ça envoie du lourd. C'est super prenant. Et tous les défauts ont été corrigés de ce que j'avais vu. Et là, j'ai soufflé, mais j'ai eu un ouf de soulagement. Ouh, enfin! Donc, en gros, ici, on retrouve un peu... disons que le jeu, d'abord, il a été présenté comme un action RPG. Donc, c'est développé par Omega Force et Koei Tecmo. Et les gens s'attendent à voir un Dynasty Warriors. Et j'ai envie de dire oui et non. Parce qu'en fait, on retrouve le côté Musou dans les batailles, puisque principalement, il faut rentrer dans le tas pour emporter des victoires durant quelques quêtes et tout ça. Et Dragon Quest Heroes, c'est un beat'em all de masse, j'ai envie de dire, avec quelques subtilités empruntées au RPG. Donc, pour faire simple, on remporte des points de compétences qui permettent d'augmenter diverses aptitudes, gagner en vitalité, gagner en points de magie, tout ça, tout ça. Et puis, on a un endroit avec différentes boutiques pour changer d'équipement, obtenir de nouvelles armes en utilisant la monnaie du jeu. On a un gameplay ultra nerveux où le joueur a la possibilité d'enchaîner, de combiner diverses techniques, de prendre le contrôle de plusieurs personnages. De plus, le côté transformation Super Saiyajin à la Dragon Ball, lorsque ma barre de puissance est à son max, ça envoie du lourd, ça démonte, c'est vraiment jouissif. Donc en fait, on a un mélange de deux univers qui donnent un action RPG particulier, au graphisme plutôt sympathique, propre, sans aliasing. Mais qui subit encore une fois, ça c'est mon avis personnel, les défauts du cross-platform, du cross-gen. Je vais mettre à dos une certaine communauté certainement, mais vivement la fin de la PS3 et de la Xbox 360 pour passer enfin la seconde, parce que je me dis que la PS4 peut faire tourner un jeu beaucoup plus riche encore. Déjà que le jeu, attention, je ne pointe pas le titre qui est vraiment top, je dis seulement que nous pouvons avoir mieux sur une console PS4, avec des graphismes beaucoup plus éclatants, beaucoup plus interactifs. Voilà, c'est ça qui manque un peu dans Dragon Quest Heroes, c'est le côté un peu clos et l'interaction avec les éléments qui peuvent nous entourer en fait. Mais sinon, c'est une grande surprise pour moi. J'ai eu très très peur au début, mais vraiment. Et au final, on prend son pied. Et ce qui est dommage, par contre, c'est que ça sort en Europe uniquement sur PS4.
Pour ceux qui ont une PS4, c'est pas gênant. Pour ceux qui ont une Xbox One, c'est un autre sujet. Mais les exclus Square Enix selon les pays, selon les régions plutôt, c'est pas neuf ça non plus. Au Japon, il y a une exclusivité sur un titre. En Europe, il y en a un autre.
Ben, là,
C'est
non,
de gros chèques.
là, c'est différent parce que c'est juste que les états des marchés sont pas les mêmes. Au Japon, la PS4 a un petit peu de mal à démarrer parce qu'il y a à peu près autant de PS4 au Japon qu'on en a en France, alors qu'en France, on est deux fois moins nombreux. Et le marché PS3 est encore très vivace au Japon. Il y a encore pas mal de titres qui sortent, ça fait encore des gros chiffres. On avait eu le même phénomène sur la fin de la PS2 où c'était encore très vivace, alors que chez nous, c'était déjà un peu plus mou. Donc on est un petit peu en avance, on va dire, sur la période de transition sur old-gen, new-gen, et c'est un peu la raison. Nous, de notre côté, ben, on a tout intérêt à faire migrer les gens sur la nouvelle génération pour les jeux suivants, parce que ben, bien entendu, PS3, Xbox 360, plus ça vient, plus on arrive sur la fin, et continuer à rallonger un petit peu ça, je pense pas que ce soit très très sain pour le milieu. Et bon, bah, il arrive un moment, même si je comprends que ces nouvelles plateformes, c'est toujours coûteux, c'est toujours ennuyeux, il y a peut-être pas encore forcément des grosses line-up parce que c'est des consoles qui sont encore un peu jeunes, mais tôt ou tard, va falloir passer le pas comme on a passé le pas auparavant avec les précédentes générations de consoles.
D'ailleurs, la PS2 s'est vendue encore largement quelques années, mais même chez nous, même si ça faisait plus le buzz et qu'il n'y avait plus grand-chose, mais je me rappelle qu'il y a encore 2 ans, Carrefour vendait des PS2 avec Gran Turismo 4 à 85 euros dans la période de Noël.
Oui,
Donc,
mais bon, ouais,
ça
tout à fait, mais
perdure,
c'est
ça
des bonnes
perdure.
plateformes. Enfin, on peut prendre la PS2, vu le catalogue de jeux qu'il y a, si on n'est pas hyper attaché à la toute nouveauté, les meilleurs graphismes HD, tout ça, parce que ben forcément, c'est des consoles qui sont un peu plus anciennes, il y a énormément de très bons jeux sur PS2, et c'est le cas aussi sur PS3 ou sur Xbox 360,
Allez,
bon,
moi
pas
je
en
dis Final
décembre, hein, mais.
Fantasy 15 sur 10 CD, sur 10 DVD sur
Avec un
PS2.
framerate de 2 images par seconde.
Kabuto vient de réinventer le
En même
remake
temps,
SD.
bah, tu me diras si ça peut t'éviter un patch de 30 gigas au Day One, c'est bien aussi. Quelque part.
Le patch, il est
Hein?
envoyé par
Qu'est-ce que
la
je voulais
poste et
dire?
par DPG.
Ouais, c'est pas mal aussi. Bah, en fait, fais gaffe parce que c'est au poids aussi les envois à la poste. Hein, fais gaffe. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Dragon Quest Heroes, comment dire, en termes de marché, par exemple sur la France, est-ce que ça reste un jeu, ça aussi, est-ce que ça reste un jeu de niche ou est-ce qu'un jeu sur lequel vous allez beaucoup communiquer?
On va beaucoup communiquer. Pour moi, c'est pas un jeu de niche parce que c'est. On sort un petit peu des standards du JRPG. On part sur un Musou, donc sur quelque chose de beaucoup plus action, beaucoup plus prenant, plus facile d'accès. On a un tuto, le tuto dure 1 dizaine de minutes et on a quasiment tout compris au jeu. Il y a 2, 3 nouvelles fonctionnalités qui arrivent. C'est un gameplay qui est assez simple, c'est quelque chose dans lequel on rentre facilement parce que c'est un jeu d'action, c'est hyper prenant. On retrouve tout l'univers de Toriyama, donc le designer qui a fait Dragon Ball Z, qui est, bah, c'est quelque chose qui parle à tout le monde et on rentre très très vite dedans. C'est plus facile d'accès, on va dire, qu'un Japanese RPG plus traditionnel, comme un ancien FF ou un ancien Dragon Quest, où ben, on a une introduction qui est lente, il faut apprendre un petit peu tous les mécanismes, la stratégie, la richesse du gameplay. Le jeu est riche, mais plus simple d'accès. Et de plus, Matsuda-san, donc notre dirigeant de la structure Square Enix, l'avait annoncé lorsqu'il était de passage à Paris il y a de ça quelques semaines. Il y a un vrai souhait de Square Enix de faire venir et revenir Dragon Quest en Occident, parce qu'à la différence de Final Fantasy, il n'y a pas eu beaucoup d'opus de Dragon Quest qui ont passé les frontières. Et Dragon Quest Heroes est un très bon produit pour réinstaller le marché, recommuniquer sur ce produit et faire découvrir cet univers aux joueurs, et tout en ayant un accès au contenu assez facile et à la richesse de l'univers.
Est-ce qu'on aura la PS4 Collector
Alors,
métallique?
la PS4 Slime, ça, c'est peu probable. Je dirais pas que ça ne l'est pas du tout, mais c'est peu probable parce que c'est ce genre. Il y aura des bundles, il y aura certainement des goodies, il y aura certainement plein de choses intéressantes, mais les bundles de cette forme sur du collector, c'est des choses qui se préparent en amont. Et très en amont, c'est-à-dire c'est pas quelques mois, c'est plutôt au moins un an voire deux, pour faire toute la pré-prod, les accords avec Sony ou Xbox. C'est un peu plus court quand c'est juste un petit boîtier, comme on en a vu sur certains boîtiers collector de PS4 où c'est juste le boîtier du disque dur qu'il faut changer. Ça c'est un petit peu plus simple, mais là la slime vraiment, c'est vraiment un design unique, donc c'est peu probable.
D'accord.
Malheureusement.
Bon, Kabuto, tu sais ce que tu dois faire, tu dois nous a, tu
non,
dois
elle
nous
est sortie déjà.
Il y en a plus
elle
là, des gens.
Elle est même sortie avant le jeu, je crois. Hein. Si mes souvenirs sont.
Ouais, elle est sortie avant le jeu. Ouais.
Ah oui, c'est vrai.
Elle était en précommande et tout ça, oui.
Alors, justement, parce qu'on revient à la communauté, je me retourne vers la communauté qui a posé des questions et c'est amusant parce qu'ils n'ont pas posé des questions sur Dragon Quest Heroes. Mais ça, je pense que tu t'en doutais. Ils sont arrivés avec des questions sur beaucoup plus larges. Par exemple, à quand un Dragon Quest 7 3DS en Europe.
Ça, pareil, j'ai pas d'informations, ça n'a pas été officialisé. Ça veut pas dire que ce ne sera pas le cas. Ça veut pas dire non plus que ça sera le cas. Je pense que si ça venait à être une réalité, ça serait annoncé. Mais je sais pas. On n'a pas vraiment d'infos. DQ7 avec Dragon Quest 8, c'est les deux plus gros titres, enfin les plus fameux et les plus réputés de la série. Je sais pas, je pourrais pas répondre parce que j'ai pas de réponse vraiment définitive à ça, mais c'est quelque chose qu'on a en tête en tout cas, parce que bah le fond en ramenant Dragon Quest, c'est aussi en permettant aux joueurs actuels de découvrir ce qui fait vraiment le cœur de cette saga, et donc principalement le 7 et le 8 qui en sont les plus mythiques, même si bien entendu le 9 qui a été connu donc sur DS était très très fameux, et les autres qui sont un petit peu plus anciens sur des plateformes un peu plus anciennes qui se rapprocheraient un peu plus du rétro gaming maintenant.
Donc finalement tu as répondu un petit peu à la deuxième question qu'a posée Mathieu Alibodex sur notre Facebook, c'est à quand un nouveau Dragon Quest dans la lignée de Dragon Quest 8, RPG, tour par tour, solo, sur les nouvelles consoles. Finalement, je pense que tu y as répondu en disant si celui-là fonctionne, c'est
la. Oui, mais je pense que bah, dans tous les cas, on se doute bien qu'il y aura un 11. Qu'il est très certainement en production à l'heure actuelle, et que bah le but c'est d'en refaire un grand titre comme le 8 et le 9 pour le ressortir mondialement. Donc ça viendra. Quand, là c'est un petit peu plus évasif vu qu'on n'a pas vraiment eu d'informations, à la différence de Final Fantasy XV ou de Kingdom Hearts 3, il y a absolument rien qui est sorti, donc ce sera peut-être après, très certainement.
Ça sera sans doute annoncé dans l'un des événements majeurs de l'année prochaine ou de l'année d'après.
En gros, au vu de l'engouement des joueurs et des ventes au Japon, je crois que maintenant ils ont franchi les 700 000 ventes et il est toujours numéro 1 des classements. Il est possible de voir un Dragon Quest 11 sur PS4, peut-être. ça serait utile pour tout le monde, à mon avis.
Oui, bah de toute manière, si je pense que c'est le plus plausible, en effet, ouais, qu'on passe sur un DQ11, PS4, voire Xbox One, mais ça, je sais, ça, on est trop en amont, mais ce sera certainement sur de la console de salon New Gen.
Console de salon New Gen, là, ça fait rêver tout le monde, quoi. Un Dragon Quest, le retour sur ça, c'est.
Oui, puis quand on voit ce qui a été donné enfin, sur Dragon Quest Heroes, c'est la première fois où on a les designs de Toriyama qui sont modélisés en 3D complètement, ouais. Parce que Dragon Quest 8, c'est du cel shading, donc c'est un peu entre les deux. Et quand on voit le résultat qui est vraiment prenant et probant, enfin moi j'ai en image le premier boss qui est un dragon et qui ressemble vraiment à Sharon de Dragon Ball Z, c'est juste assez magnifique de voir ça en vrai 3D pur et d'être vraiment proprement modélisé et totalement respectueux des designs originaux.
Et je confirme ce que tu dis car je suis un grand fan de Akira Toriyama.
mais non, quand tu racontes des conneries. Tu n'es pas un grand fan de Dragon Ball, c'est dans ta tête.
Bon allez, je suis un drogué, c'est parti. Suis un drogué d'Akira Toriyama.
Ça saurait si t'étais ouais.
Non mais t'aurais pas le cas. Le caractère design est assez impressionnant et au niveau du dragon, justement le premier niveau, même les textures, tout, c'est très propre et pour de la 3D, j'ai été impressionné. Donc s'il y a un Dragon Quest un peu dans cette veine. Voire mieux, parce qu'on parle de la PS4, je serai aux anges et je pense que je ne serai pas le seul.
Eh ben écoute, sur
c'est
ce...
C'est le cœur qui parle, là.
Oui, c'est le cœur, mais en même temps, c'est le cœur du fan. C'est hors sujet, mais pour Dragon Ball, mais il est fan, certes, mais lucide dans ses tests. Hein, quand c'est mauvais, il le
dit. Non, il
n'aurait
pas
bon,
mis 15 à Xenoverse, sinon, s'il avait été lucide, il aurait
arrêté. Non, il aurait mis 17. Il aurait mis 17.
Arrêtez 5 minutes, quoi.
Bon, 22 sur 20.
Justement, on va arrêter, et puisque nous sommes maintenant dans le dernier quart d'heure de ce podcast, et le sujet que nous allons aborder maintenant est un petit peu plus délicat, nous allons parler de Life is Strange. Raphaël, peux-tu nous pitcher rapidement, pour ceux qui ne le sauraient pas, s'il y en a ici, ce qu'est Life is Strange et quelle est sa particularité?
Alors, Life is Strange, c'est un jeu d'aventure épisodique. Donc, ça se rapproche des formats qu'on connaît déjà des jeux Telltale. Donc, pour aider les gens qui n'auraient pas entendu parler de ce titre, donc qui est sorti le 30 janvier. Le premier épisode est déjà sorti. Le second arrive très prochainement, donc courant mars, avec un tout petit peu de retard, mais bon, c'est un petit peu les déboires des productions de ce format-là qui sont un peu compliqués. Ça met en scène une adolescente, Maxime Caulfield. Donc on se retrouve dans l'Oregon, sur la côte ouest pacifique américaine, dans une petite bourgade qui s'appelle Arcadia Bay. Maxime Caulfield, c'est une fille qui est née là-bas, qui a grandi dans cette bourgade, et qui, à l'âge de 13 ans, a dû partir avec son père à Seattle pour des raisons professionnelles, son père, et revient ensuite sur ses 18 ans à Arcadia Bay pour suivre des études de photographie. Et en fait, quand elle revient, bah forcément, en 5 ans, les choses ont beaucoup changé. Ses anciens amis et les gens qu'elle a connus ont beaucoup évolué, principalement son amie d'enfance, Chloé, et qui, d'une enfance sage, est devenue une adolescente turbulente, pour diverses raisons, mais je ne vais pas spoiler là-dessus. Mais grosso modo, on va vivre l'histoire de ces deux jeunes adolescentes qui vont partir sur une enquête d'une amie de Chloé qui s'appelle Rachel Ambers, qui a disparu. Tout le monde pense qu'elle a fugué, mais Chloé est persuadée qu'il s'est passé autre chose. Et en gros, on va vivre cette enquête en rapport avec Maxime, qui va découvrir qu'elle a un pouvoir, elle a la possibilité de remonter dans le temps de quelques instants. Ce qui va permettre au final de revenir, c'est une feature de gameplay qui permet, lorsque l'on joue des scènes, de pouvoir revenir et changer ses choix et de pouvoir changer les interactions. On change un petit peu la donne par rapport au jeu habituel sur ce format, qui habituellement met la pression sur des choix où on n'a pas le temps de choisir, et c'est des choix de survie, et on essaye de faire le meilleur choix et on peut avoir des regrets ensuite. Sur ce format là on passe sur l'inverse, c'est à dire on a autant de choix qu'on veut, mais il faut finir par en faire un. Et donc, ben voilà, on se retrouve à vivre cette histoire qui est très prenante, qui est donc dans un contexte contemporain, qui parle de sujets contemporains, et qui parle vraiment de ce passage où on est sur la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, et où on commence à se rendre compte qu'on fait des choix qui ont une importance sur le reste de notre vie et qui définissent ce qu'on devient et ce qu'on sera plus tard.
Alors, la particularité de ce titre, c'est qu'il est au format, comme tu l'as dit, c'est-à-dire épisodique. Donc, le premier épisode est sorti il y a maintenant quelques longues semaines, et malheureusement, le deuxième a pris un petit peu de retard, ce qui fait poser la question, est-ce que c'était le bon moment à sortir? Est-ce qu'il fallait pas faire comme, par exemple, Capcom avec Resident Evil, et finir le jeu, puis le diffuser ensuite en épisodique? Parce que voilà, les questions se posent. C'est un petit peu désagréable de commencer un jeu, de plonger dans un univers, de se retrouver finalement en attente, un peu comme une série, sauf qu'une série, ça tombe toutes les semaines. Si tu reprends un jeu un mois et demi après, les questions se posent. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite erreur de lancement ou un peu de précipitation sur le coup?
Moi, ça dépend un petit peu des points de vue. C'est un peu compliqué à d'offrir une affirmation sur cela. Je pense qu'il n'y a pas de méthode exacte. L'épisodique, mis à part Telltale, qui commence à avoir roulé sa bosse, et si, enfin, pour ceux qui ont pu y jouer à l'époque, ça a été assez chaotique les dates de sortie de Walking Dead, par exemple, et pourtant beaucoup de gens ont apprécié les deux saisons de Walking Dead, ou tout du moins au moins la première. pour ceux qui n'ont pas fait la seconde. Et alors que voilà, on a eu les deux premiers épisodes assez rapidement et le troisième est venu quelques mois plus tard. Oui, ça peut être, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant si on a oublié son expérience précédente parce qu'il s'est passé quelques semaines entre le précédent épisode et le suivant. Mais ça ressemble à une série finalement. Ça peut être frustrant de finir et on finit une série, il y a toujours le cliffhanger, il y a le pitch de le truc suivant et puis on se dit ah mince j'ai envie de savoir, ah mais faut attendre une semaine. On se retrouve toujours là, sur cette envie. Il y a des gens qui ont un aspect, une approche différente, qui disent ça a l'air sympa, j'ai regardé le pitch, le pilote, j'ai accroché, j'attends la fin de la saison et je les visionnerai quand ils seront tous présents. Donc ça, en effet, ça fait partie je pense inhérent du format. Mais en ce qui nous concerne, nous on a souhaité avoir pour sortir le jeu, garder la prod en parallèle pour pouvoir récolter les retours des joueurs et pouvoir faire des améliorations ou remodifier des choses s'il y a des choses qui ne plaisent pas. Donc ça a quand même un intérêt je pense sur la production que de sortir un produit fini et après faire de l'épisode, parce que là je peux comprendre que les joueurs se plaignent en disant mais je comprends pas pourquoi ils me sèvrent et ils me donnent pas tout alors que tout est fini. Ça peut être un petit peu frustrant sur ce format là. Nous on a fait ce choix. Et après il y a des contraintes techniques qui font forcément faire 5 épisodes, donc sortir le premier tout en travaillant sur le second, le troisième, le quatrième et un peu le cinquième, et en étant toujours un petit peu sur toutes les productions à la fois, parce que les choix ont des impacts sur tous les épisodes ensuite ou sur certains pas d'autres, pour bien garder la corrélation entre toutes les actions. Je pense que c'est important. Et bon les petits retards, ça arrive. Là, ça sera pas très très long normalement. Ça sera l'histoire de quelques jours, peut-être de quelques semaines, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Donc c'est pas non plus repoussé ad vitam aeternam pour une longue période.
Si c'est le cas pour tous les épisodes, en gros, on aura l'épisode 5 en 2016, quoi. S'il y a un an entre l'épisode 1 et l'épisode 5, je trouve que ça commence à devenir problématique au niveau de l'attente. Après, ouais, c'est mon avis, mais moi je pense que Capcom a finement joué le truc avec Revelation. C'est-à-dire que sur un mois, t'as ton jeu qui est complet, fini. Alors certes, oui, il y a le côté, je suis d'accord avec toi sur le côté, ouais, ils ont fini le jeu, ils pourraient diffuser un épisode tous les jours à la limite. Mais je sais pas. Je pense que le format épisodique.
C'est surtout de savoir si le retard de cet épisode-là va entraîner un retard aussi sur les autres épisodes ou si on va avoir juste un retard maintenant et qu'après ça va être rattrapé.
Alors, ouais, normalement, ça devrait pas parce que c'est propre à cet épisode et c'est des petits. C'est plutôt d'un. C'est pas par rapport à la production même et au scénario, c'est plus sur quelques détails techniques. Donc c'est plutôt du retard technique. Et normalement, les retards techniques, c'est des choses qui peuvent être corrigées sur les prochains épisodes. C'est pas par rapport à la production de contenu. Donc normalement, voilà, ça devrait se produire sur celui-ci. Et j'espère que ça ne se produira pas sur les autres. Parce qu'on était parti sur 6 semaines entre chaque épisode. Voilà, ça devrait pousser peut-être sur 8 ou 9 semaines. Mais bon, si les autres, on va faire de notre mieux pour que ça tienne justement sur cet encart de 6 semaines entre chaque épisode pour finir la saison.
Ouais, pour le test, puisqu'on avait, je me rappelle qu'on nous en avait discuté, Raphaël, de la note que nous avions mis au test, qui est une note bien sûr provisoire, puisque le jeu doit être testé au complet pour pouvoir être noté au complet. Donc on a été peut-être un petit peu, et c'est simple, je te passerai la parole pour ça, mais on a été peut-être un peu différent des confrères qui ont eu une tendance à noter bien, beaucoup, à mettre plutôt des bonnes notes. Nous, je crois qu'on lui avait mis un 12 pour l'instant.
12 sur 20, ouais. 12 voilà. Encouragements.
12 encouragements. Alors, c'était pas...
Comme à l'école.
C'était, tu peux expliquer son... Tu peux expliquer... Alors, je sais que... Manu l'a testé aussi, donc Nobunagashi, tu l'as testé aussi et tu avais un avis différent. Ça serait bien que tu l'exposes après.
Et Kabuto aussi, je crois.
Kabuto, donc tiens. On va commencer par toi puisque tu es celui qui a publié le test. Explique-nous un petit peu ce 12 et pour voilà, parce que je pense que ça a été quand même Cette explication, bon, on y a répondu dans les forums, mais je pense qu'elle mérite d'être donnée.
Pourquoi j'ai mis 12 à Life in Strange épisode 1 parce que j'attends de voir, parce que le premier épisode, pour moi, il ne s'est pas passé grand-chose et que je préfère partir sur une note un peu plus basse et monter plutôt que de tout de suite m'emballer et finalement d'être déçu. Parce que c'est typiquement le genre de scénario alors attention, hein, le travail d'écriture, je l'ai dit dans le test, il est remarquable. Les personnages, ils sont vraiment super bien écrits. Il y a vraiment de la matière. Franchement, Dontnod, ils ont vraiment bien bossé le truc. Mais de toute façon, comme Remember Me, ils sont assez forts pour poser des univers et écrire des personnages sympathiques, surtout des personnages féminins d'ailleurs. Et avec ce genre de scénario un peu alambiqué où il y a des trucs un peu paranormaux qui se passent, qui restent assez mystérieux, j'ai toujours un peu de réserve parce que ça peut très bien finir en pétard mouillé comme Lost par exemple, ou ce genre de série où il y a pas mal de questions qui viennent tout de suite et certaines n'ont pas toujours des réponses. Donc je pars sur une note, disons que je reste sceptique. Et je pense et j'espère que je serai agréablement surpris par la suite. Et je pense que je serai agréablement surpris par la suite. Et je préfère passer de, c'est ce que j'avais dit, je préfère passer de 12 à 14, 15 ou voire 16 à tout de suite mettre 16, 17 comme beaucoup de nos confrères et beaucoup de nos confrères anglo-saxons notamment qui sont beaucoup emballés sur le titre. Et finalement d'être déçu et de dire aux joueurs, dire aux lecteurs finalement, bah l'épisode 1 était génial et puis après c'est un peu retombé et finalement le jeu globalement il est pas tip top quoi. En fait c'est un peu comme il y a beaucoup de pilotes de séries qui sont super décevants. Moi je viens de commencer par exemple Breaking Bad et je trouve que le début de la série est super poussif alors que tout le monde nous dit que c'est génial. Et il y a beaucoup
putain,
de séries.
Va pas plus loin alors.
Il y a beaucoup de séries qui je pense ont des pilotes super décevants et qui montent crescendo et qui atteignent des niveaux d'écriture et de rebondissement qui font que ça devient des objets cultes et je pense que Life in Strange est dans cette tendance là et donc voilà, j'attends de voir. Il y a aussi le côté le gameplay, enfin le retour en arrière dans l'épisode 1, c'est juste pour changer des phrases de dialogue, donc je suis resté un peu sur ma faim. J'espère qu'ils en feront autre chose par rapport à des situations un peu plus punchy. Et puis il y a quand même quelques défauts techniques. Moi j'ai relevé du clipping, j'ai relevé des chargements qui affichaient les décors en plein gameplay. Enfin, j'ai quand même quelques écueils techniques qui m'ont un peu sorti du truc et puis même la direction artistique elle est travaillée mais il y a quand même quelques trucs qui sont assez moches donc voilà pourquoi j'ai mis 12. C'est sûrement très sévère mais ça peut devenir de toute façon ma phrase de conclusion c'était l'épisode s'appelle Chrysalis. Et on sait tous que les chenilles donnent parfois de beaux papillons donc voilà.
D'ailleurs, comment on le prend une critique comme ça un peu à contre-courant quand on est côté éditeur?
Bah c'est pas forcément à contre-courant parce qu'on a eu trois vagues, hein, on va dire, on a eu trois types de reviews. On a eu les gens qui ont été enthousiastes et qui ont mis des bonnes notes. On en a eu comme le cité de pitch chez les Anglais, ça a été dithyrambique, et on en a eu aussi en France. On a eu une autre vague où les gens ont été sur la réserve et ont dit on note pas parce que le jeu c'est qu'une partie du jeu et les choses qui sont très intéressantes sur l'aspect épisodique, c'est de voir l'évolution de l'histoire, les impacts des choix, comment tout s'organise, tout se goupille, et donc forcément dans l'état même, en ayant un cinquième du jeu, on peut pas avoir un jugement noté, on peut juste donner un avis sur l'épisode même. Et on a eu quelques critiques un petit peu plus dures. Ça fait partie du jeu, hein. Après la presse est là pour apporter de l'information et apporter des choses à leur audience et à des aux joueurs qui achèteront peut-être les jeux. Tout le monde a un rôle. Ce qui Après, voilà, il y a des fois, c'est juste, quand c'est juste, quand c'est bien expliqué, quand il y a un avis critique qui explique pourquoi ça n'était comme ça, noté comme ça, c'est intéressant. Là où je trouve que ça peut être un peu plus injuste, et c'est mon avis personnel un petit peu sur ce test, et c'est pour ça qu'on en avait discuté, Eric, et je suis assez clair dessus, c'est que je trouve que c'est un peu dommage de noter un épisode sur ce que veut potentiellement donner ou ne pas donner, et donc plutôt ne pas donner la suite de la série sans le savoir, dire que ça peut potentiellement être un pétard mouillé et que bah, on doute que ça ait beaucoup d'impact, qu'il y ait beaucoup d'impact sur les dégâts, enfin qu'on soit vraiment plein de doutes sur ce que ça peut donner. C'est avoir un avis négatif sur quelque chose dont on ne sait pas forcément ce que ça va donner, c'est un peu dommage. Vaut mieux, enfin moi de mon avis, on n'est pas forcément là, on est dans l'entreprise et l'industrie du divertissement, on est là pour apporter un plaisir aux gens et avoir une vision critique, mais relativement positive quand on ne sait pas, ça coûte pas bien cher.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
C'est juste que y a, enfin, à la fin de l'épisode 1, il n'y a pas non plus le cliffhanger qui fait que voilà, tu vois, c'est...
Enfin, mais, il, bah quand même, un peu à la fin...
Manu, justement, j'allais te donner la parole, parce que Manu, tu as une vision un petit peu bien différente, finalement, de celle de Peach.
Bah moi, j'ai une vision un peu plus comme nos confrères anglo-saxons, parce que c'est vrai que moi, j'ai adoré, en fait. Déjà, je suis pas super fan des jeux épisodiques de Telltale et compagnie, parce que j'aime pas avoir un choix stressant avec chronométré à faire. J'aime bien aussi pouvoir avoir l'occasion de tout essayer. Je suis quelqu'un qui est très complétionniste quand je fais un jeu, et j'aime tout récupérer. Là, quelque part, il me donne la possibilité de tout essayer, de revenir en arrière si besoin. Et là, clairement, sur le premier épisode de Life is Strange, j'ai dû refaire, enfin, toutes les possibilités, je les ai faites, je les ai torchées. J'ai beaucoup apprécié ça. Tous les écueils techniques dont parlait Maxime, je les ai pas vus. Bon, après, le jeu est pas sublime. Non, mais il est pas sublime. Hein, on va pas se le cacher. Mais je trouve la direction artistique quand même assez propre. Et j'ai pas eu de bug de chargement, d'affichage. C'est, oui, il y a un peu de clipping, mais c'est pas plus dérangeant que ça. Et au niveau de l'histoire, moi, j'ai vraiment accroché, comme tu disais, Max, il y a une écriture qui est très fine. Et jusque dans les petits détails, dans la recherche, dans les décors, ou même dans les dialogues cachés, les dialogues qui sont pas obligatoires. Quand elle arrive dans la chambre de sa copine là, ou de son ennemi, et qu'elle regarde la télé et qu'elle dit ouais, quel bel écran, ça serait sympa de regarder Final Fantasy Advent Children dessus, c'est mon film préféré. C'est con, mais ça m'a fait sourire. Je trouve ça mignon, le petit clin d'œil Square Enix à eux-mêmes. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a une finesse dans toute l'écriture que je trouve super sympa. Et à la fin, là où je suis vraiment pas d'accord avec toi, c'est que Cliffhanger m'a fait dire putain, mais le deuxième épisode il arrive quand quoi, merde.
T'as pas joué à Revelation 2, c'est pour ça. Revelation 2, ça c'est un vrai cliffhanger.
Ouais, mais je sais pas, c'est un ressenti. Kabuto, tu y as joué toi donc?
Alors moi j'ai pas un avis aussi extrême que Nobu à dire.
C'est entre lui et moi, je crois.
Comme nos amis anglophones. Je ne suis pas comme Peach, c'est-à-dire la petite truc, la petite bête, machin, tout ça et tout. Donc moi, je suis un peu entre les deux. Je suis plus... Enfin, c'est plus l'adolescent Kabuto Rider qui parle. Ça m'a fait penser au film Butterfly Effect, voilà. Je suis dans un lycée...
La référence moisie, je crois que c'est...
Ouais, la référence moisie, mais référence ado. C'est pour ça que je dis que c'est l'adolescent qui parle, mec.
Moisie, le bouquin est superbe. C'est le film qui est moisi. Au passage.
Je pense qu'il parle du film, il parle pas du bouquin. Ouais,
mais bon, je suis désolé, j'ai adoré ce bouquin et le film m'a pas forcément déplu. Non, mais oh.
Donc oui, pour en revenir au jeu, le côté lycée, le côté on peut revenir un poil en arrière pour changer les événements, ça m'a plu. J'ai accroché l'histoire, enfin accroché à pas d'être foufou complètement, mais ça m'a donné envie de savoir la suite. Les personnages, je les ai trouvés super attachants, surtout la petite rebelle que je trouve plutôt mignonne. Pourtant, on partage la vidéo. Et oui, j'ai vu les défauts techniques que Saint-Pitch a cité, parce que j'ai aussi un œil de Sphinx. Mais à la fin, je suis entre les deux. C'est-à-dire, oui, j'ai envie de savoir la suite. Mais bon, si ça sort pas, bah, tant pis. Voilà.
Bon, bah, tu vois là toute la difficulté d'une rédaction qui doit. Raphaël, donc je disais, toute la difficulté d'une rédaction qui doit tester un jeu. D'ailleurs, c'est Pitch qui l'a testé. Manu l'a eu après et Kabuto aussi. Donc c'est vrai que c'est difficile. Donc c'est notre responsable qui a tranché en lui mettant ce 12. On verra ce que ça donnera sur le deuxième épisode qu'on attend, parce que c'est vrai que l'attente en même temps et le retard, c'est toujours un peu agaçant.
J'ai déjà tout oublié, c'est ça le problème.
Voilà. Mais moi, j'ai décidé que je le ferai à la fin. En fait, quand
t'es de mauvaise foi, Pitch, c'est tout.
Comment ? Qu'est-ce que t'as dit ?
T'es un peu de mauvaise foi.
Il a dit que t'étais de mauvaise foi.
Non, je pense même pas en plus.
Je sais pas, c'est peut-être l'adolescente qui lui a pas plu. Bon, en tout cas, ce qui était intéressant dans cette partie de Life is Strange, c'est quand même que vous avez lancé un jeu sans que... Vous n'êtes pas les seuls, hein, sans qu'il soit terminé. Donc, ça pose effectivement quelques petits soucis quand il y a du retard. C'est pas dramatique, hein, c'est juste que c'est un peu... ça peut être un peu stressant pour les fans. Côté fan, d'ailleurs, ça réagit comment puisque tu gères aussi un peu le côté communautaire, il n'y a pas trop de... ça crise pas trop ?
Non, peu, parce que... Sincèrement, bah forcément, les gens sont un peu déçus, ils ont envie de voir la suite, mais on en revient toujours au format épisodique, hein, que ce soit les séries, c'est toujours pareil, on a toujours envie de voir la suite, et voir la suite, surtout que les formats sont faits justement pour avoir un gros cliffhanger à la fin qui nous donne envie de savoir mais qu'est-ce qui va se passer. C'est inhérent au format, mais dans l'ensemble, non, les gens ont été satisfaits dans l'ensemble du premier épisode, et sont assez patient de voir la suite, et bah pour l'instant, voilà, le retard est pas non plus très massif, donc voilà, les gens sont encore compréhensifs et comprennent bien que c'est des productions qui sont très particulières, et puis que c'est un genre encore un peu jeune. Il n'y a pas vraiment de standards de prod qui sont installés comme sur des prods habituels, et c'est un petit peu de l'expérimentation, donc forcément quand on expérimente, il y a toujours des bonnes et des mauvaises surprises.
Bon, bah écoute, merci pour cette petite heure passée en notre compagnie.
Juste une dernière question.
Vas-y.
On parlait de rumeurs pour l'épisode 2, que ça sortait pas en mars. Finalement, en mars, fin mars, finalement, il se passe quoi, l'épisode 2 ? Il sort ou il sort pas ce mois-ci ?
Ah, bonne question. Ça, c'est une très bonne question, Kabuto. En tout cas, les dernières annonces disaient que ça sortirait pour mars.
La dernière communication de Square Enix, c'est moi qui l'ai traité, vous dites on va tout faire pour que ça sorte en mars.
Exactement.
Ce n'est pas tout à fait la même chose que ça va sortir en mars.
On est bien d'accord. Donc on va faire tout ce qu'on peut pour que ça sorte en mars, mais voilà, il y a des petits soucis techniques, et tant que c'est pas réglé, on peut pas sortir un jeu qui est pas fini et pas
stable.
Donc si ça prend quelques jours de plus, ça les prendra, mais on espère que non.
Voilà, de toute façon, vaut mieux qu'ils sortent bien finalisés en avril que boiteux en mars, c'est pas la question.
De toute façon, comme l'a dit Raphaël, Telltale, la première saison de Walking Dead, si mes souvenirs sont bons, il y a eu 3 mois entre l'épisode 2 et 3, je crois.
Ouais, c'est ça. Et après, l'épisode 4 est sorti rapidement, et l'épisode 5 a re-eu encore un bond. Donc, j'aurais tendance à imaginer qu'ils ont eu certainement des déboires à peu près, enfin, qui peuvent ressembler à ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Parce que, le premier et le deuxième sont sortis, quasiment à 2-3 semaines d'intervalle, quelque chose comme ça. Ça avait été assez vite. Et après, si ça se trouve, ils ont eu des mauvaises surprises aussi.
De toute façon, vous profitez, j'imagine, du retour des premiers épisodes, vu que c'est pas développé, pour corriger, voire améliorer, voire changer c'est une question, le scénario, ou ça par contre c'est fixe et on parle vraiment que de problèmes techniques?
Non, bien entendu, il y a l'aspect technique, donc ça concerne les développeurs qui sont sur les problèmes techniques, mais tous les autres passent, enfin les designers, les graphistes et tout ça vont profiter de ce temps pour bien entendu continuer à bosser sur les épisodes suivants, mais aussi travailler à peaufiner celui-là. Donc c'est pas du temps perdu, que ce soit pour la suite ou pour celui-ci.
Bon, bah écoute, donc je disais merci pour cette heure passée en notre compagnie. Merci Saint-Pitch, merci Nobunagashi, merci Kabuto Rider. Vous avez plein de choses à faire, plein de previews à sortir, dont certaines on ne peut pas dire le nom, donc on ne le dira pas de pour toutes, comme ça c'est gagné. Il y a plein de boulot d'ici à demain et même d'ici à lundi. Donc ce podcast sera diffusé ce week-end. Et j'espère qu'il vous aura plu. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire pour que nous progressions soit dans le choix des sujets, soit dans la façon dont nous l'avez traité, ne vous gênez pas. Les commentaires sont là pour ça. Merci Raph, merci Kabuto, merci Saint-Pitch, merci Nobu. À la prochaine.